Donc l'épître aux Éphésiens, Saint Paul, chapitre 6. Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa vigueur toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les perfidies du diable. Car ce n'est pas avec la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés et les puissances, contre les princes de ce monde ténébreux, contre les esprits de malice répandus dans les cieux. Prenez donc l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux jours mauvais et demeurez en tout fermes et parfaits. Tenez-vous donc les reins saints de la vérité, couverts de la cuirasse de la justice, la chaussure aux pieds, tout prêts à aller prêcher l'évangile de la paix. Armez-vous surtout du bouclier de la foi, au moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Et lorsqu'il eut commencé à examiner les comptes, on lui présenta quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi les rendre, son maître ordonna qu'on le vendît, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait pour acquitter la dette. Ce serviteur, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant: Prenez patience envers moi, et je vous rendrai tout. Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Et ce serviteur, à peine sorti, trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit à la gorge et l'étranglait en disant: Rendez-moi ce que vous me devez. Et son compagnon, se jetant à ses pieds, le conjurait en disant: Prenez patience avec moi, je vous rendrai tout. Mais il ne le voulut point, et s'en allant, il le fit mettre en prison jusqu'à ce qu'il rendît ce qu'il devait. Voyant ce qui se passait, les autres serviteurs en furent tout attristés, s'en vinrent raconter à leur maître tout ce qui lui était arrivé. Alors son maître le fit appeler et lui dit: Mauvais serviteur, je vous avais remis toute votre dette parce que vous m'en aviez prié. Ne fallait-il donc pas avoir pitié, vous aussi, de votre compagnon, comme j'avais eu moi-même pitié de vous? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il payât l'entièreté de sa dette. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Veuillez vous asseoir. D'abord, je recommande à vos prières une retraite que je vais prêcher donc cette semaine, qui sera la dernière retraite de l'année. Je pense pouvoir publier dès dimanche prochain le calendrier pour 2022. J'ai déjà proposé les dates, les retraites en principe. L'année prochaine, j'ai déjà proposé les dates à la propriétaire du gîte dans lequel je prêche et de me donner une réponse incessamment. Donc vous aurez les réponses très vite et donc les dates des retraites pour l'année prochaine. Alors attention pour ceux qui viennent à la messe en semaine. Donc demain matin, messe ici à 10 h et toute cette semaine, la messe aura lieu à l'endroit où je prêche la retraite, donc à Récombis, près de l'Edergue, à un quart d'heure d'ici. Donc, c'est les horaires des messes de retraite. Donc, 7 h 30 mardi, mercredi, vendredi et samedi, et 7 h jeudi pour l'enfant prodigue. Donc, Dieu aidant, grâce à beaucoup d'aide, aussi ici-bas, j'ai pu signer hier un contrat pour louer une autre maison. Je remercie beaucoup ceux qui sont porter garant pour que je puisse louer quelque chose. Pour un prêtre, c'est le parcours du combattant, louer quelque chose. Parce que la première des choses qu'on nous demande, c'est évidemment une feuille de paye et des fiches de salaire. Alors, c'est très compliqué. Mais tout s'est bien passé, donc je vais déménager à 2,5 km d'ici. Le déraménagement aura lieu le 14 novembre. Donc, à partir plus exactement le 13 novembre, à partir du 14 novembre, donc la messe aura lieu à Ginals. Ginals, c'est un des autres petits hameaux de Padiès, qui est à 2,5 km d'ici. Je vous expliquerai tout ça. Donc là-bas, la chapelle sera à peu près de la même taille, mais j'aurai surtout sur le côté une grande pièce qui est en communication, une grande ouverture avec la chapelle, qui sera mon bureau en fait. Donc je vais pouvoir avoir plus de monde parce que je pourrais mettre aussi, utiliser le bureau pour quand il y a beaucoup de monde à la messe. Bon, c'est un bon problème d'avoir trop de monde. Au mieux en avoir trop passé. Donc, vous êtes tous les bienvenus, même si je ne peux pas toujours vous donner le confort idéal. Fait ce qu'on peut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, l'évangile d'aujourd'hui doit être bien compris. Il faut chercher encore une fois le sens caché, le sens mystique. rappelle ici, le sens que je vais expliquer, c'est le sens tropologique. Et qu'il y a trois sens. Sens allégorique, sens tropologique, sens anagogique. C'est les pères de l'Église qui expliquent ça, et saint Thomas d'Aquin. Sens allégorique, une partie de l'Ancien Testament représente quelque chose qui va se passer dans le Nouveau Testament. Par exemple, traverser la mer Rouge, qui représente le baptême. Sens allégorique, ça c'est le premier. Sens tropologique, le sens moral, une parabole que notre Seigneur Jésus-Christ nous explique représente ce qu'on va devoir faire nous-mêmes. Et sens anagogique, quelque chose qui se passe du temps de la vie de notre Seigneur, par exemple, ou même dans l'Ancien Testament, représente ce qui se passera à la fin du temps. Ici, on va appliquer le sens moral, le sens tropologique. En suivant les pères d'Église, vous verrez que dès qu'on utilise justement ce sens, qui est détesté par tous les modernes, l'Évangile prend un tout autre sens. Ok, ce roi, voilà un roi donc qui demande à ses serviteurs de rendre compte de leur activité. Et voilà un serviteur qui devait une fortune. 10 000 talents, c'est une fortune. Imaginez, vous devez 100 000 euros à quelqu'un. Et donc il exige le remboursement de la dette. La personne à pouvoir rembourser, étant insolvable, se jette aux pieds du roi et lui demande le pardon de la dette. Et le roi accorde le pardon de la dette. Donc qui est ce roi? Bien, ce roi, c'est le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a des serviteurs, vous et moi, nous sommes tous des serviteurs de Dieu, et nous avons une dette à payer. Faut pas oublier ça. Chaque fois qu'on commet un péché, ça provoque une dette. Plus on commet de péché, plus la dette augmente. Je veux dire, même chez l'abbé, à chaque fois qu'on fait une confession, le compteur est remis à zéro. Attention, le compteur est remis à zéro dans le sens que le péché est effacé. Mais il reste la dette temporelle des péchés déjà pardonnés à payer. C'est quoi la dette temporelle? C'est la peine du purgatoire. Donc il y a une dette à payer. Il faut savoir nous aussi nous mettre à genoux pour supplier le bon Dieu de pardonner cette dette. Alors notons d'abord que les serviteurs, ils sont tous différents. Il n'y a pas d'égalité devant Dieu. L'égalité, c'est un truc des révolutionnaires. Pas d'égalité devant Dieu. Chaque âme est différente. Chacun d'entre nous, on est serviteur, mais chacun d'entre nous, nous sommes serviteurs avec un travail différent. Dans les Romains, il y avait beaucoup de serviteurs, et chaque serviteur avait un rôle différent. Il y en a qui s'occupaient de la cuisine, un qui s'occupait du jardin, un qui s'occupait des enfants, chacun avait son travail. Et donc chacun doit remplir sa fonction et se sanctifier avec le rôle qui est le sien, que le bon Dieu lui a donné, dans le cadre de vie qui est le sien. Bien tenir compte de ça. Et donc le serviteur, à partir du moment où il est serviteur, évidemment, il est dépendant de son supérieur, dépendant du roi des rois. Donc nous sommes tous, vous et moi, dans une situation de dépendance. Capital à expliquer aujourd'hui parce que tous les gens modernes se croient indépendants. Donc je suis dans une situation de dépendance. Je dépends de mon supérieur. Je dépends de notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a créé. Et comme il est mon créateur et mon rédempteur, j'ai évidemment des devoirs à son égard. Il a des droits sur moi. Donc un catholique est quelqu'un qui comprend les devoirs de l'homme. Les droits de l'homme, vous pouvez les mettre dans la poche avec un mouchoir par-dessus. Pas intéressant. Par contre, les devoirs de l'homme, ça c'est important. Notre devoir, louer, honorer, servir Dieu. Comment c'est l'exercice de Saint-Ignace demain avec cette phrase-là. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu. Donc le devoir de chacun d'entre nous, c'est d'honorer le bon Dieu, d'adorer, de le respecter et de lui obéir. À partir du moment où le serviteur remplit son devoir, il trouve la liberté. Quelque chose qu'on a un mal fou à comprendre aujourd'hui. On a l'impression, on est tellement empêtré dans les idées modernes qu'on considère que puisque je reconnais un supérieur, donc je perds ma liberté. En fait, c'est l'inverse. Celui qui reconnaît qu'il a un supérieur, qui reconnaît qu'il a un devoir d'État par rapport à ce supérieur, ici, dans le cas qui nous préoccupe, c'est Dieu dont je parle. Ils trouvent la liberté. Les gens qui veulent être absolument indépendants, qu'est-ce qu'ils trouvent? L'esclavage. Ils ne veulent plus reconnaître l'autorité du bon Dieu, donc ils tombent dans l'esclavage le plus complet, ils perdent l'usage de la liberté. Je vous donne un exemple. Donc, toujours le même exemple parce que je pense qu'il est important à comprendre. Quels sont les gens qui sont les plus opposés à l'action de Dieu sur eux? Quels sont les gens dans le monde moderne qui sont les plus opposés à l'influence de Dieu sur eux? Je pense que ce sont les féministes. Rien de pire qu'une féministe. Devenez jamais féministe. Les féministes sont des gens complètement indépendants. Je ne servirai pas. Et quels sont les plus grands esclaves du monde moderne? Les féministes. Elles ne veulent plus servir. Elles ne veulent même plus suivre la loi naturelle. Elles se présentent indépendantes. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Des objets. Une féministe est un objet qui va être méprisé par les hommes parce que justement en étant féministes, elles perdent toute leur féminité. Ça semble étonnant. Ils jouent sur les mots. Et vous voyez, comme il est capital pour nous de comprendre ces choses-là. Je suis un serviteur, donc j'ai des devoirs à remplir. J'ai un mode d'emploi qui m'a été donné par mon Créateur et mon Rédempteur pour l'usage de mon intelligence, l'usage de ma volonté, l'usage de mes passions. J'ai pas le droit de faire ce que je veux avec mon intelligence, ma volonté, mes passions et mon cœur. Et dans la mesure où je respecte ce mode d'emploi, la machine fonctionne normalement. Imaginez quelqu'un qui achète une machinerie quelconque et qui refuse de lire le mode d'emploi en disant, moi, je fais ce que je veux, je refuse catégoriquement d'avoir un mode d'emploi qui m'indique ce que je dois faire. Je fais ce que je veux avec ma machine. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout casser. Celui, au contraire, qui a l'humilité, je ne suis pas suffisamment malin pour comprendre comment fonctionne cette machine, donc je vais lire soigneusement le mode d'emploi pour pouvoir utiliser correctement la machine. Celui-là, il va être heureux. Le bon Dieu nous a donné une machine intellectuelle pour connaître le vrai. Il nous a donné une volonté pour atteindre ce vrai. Il nous a donné un irascible pour lutter contre les tentations. Il nous a donné un concupiscible pour désirer les bonnes choses selon la loi naturelle et la loi du bon Dieu. Et dans la mesure où je fais ça, je trouve ma liberté. Mais attention, c'est le nombre de détails qu'il faut bien comprendre dans cet évangile. Les serviteurs, vous et moi, nous sommes les serviteurs inutiles. Ça veut dire quoi un serviteur inutile? Est-ce que le bon Dieu a besoin de nous? Non. Est-ce qu'il a besoin de vous et moi pour sauver les âmes? Non. Il est parfaitement capable de faire le travail par lui-même. Mais Dieu, dans sa miséricorde, élève le serviteur au niveau des causes secondes. Il y a une cause première qui est Dieu, qui dirige tout, mais il va utiliser des causes secondaires comme des instruments pour l'application de la cause première. Donc il va nous demander à chacun d'entre nous de devenir des instruments de notre salut et du salut de ceux dont nous avons la charge. Donc nous sommes des serviteurs inutiles et c'est dans la mesure où nous reconnaîtrons que nous sommes des serviteurs inutiles que nous serons capables de faire remplir notre devoir d'État pour nous et pour ceux dont nous avons la charge. Un deuxième point qui me semble aussi extrêmement important, c'est que non seulement nous sommes des serviteurs inutiles, mais nous sommes aussi des serviteurs insolvables. Hein. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Pourquoi nous sommes les serviteurs insolvables? Parce que le péché mortel, en soi, présente quelque chose d'infini. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une infinité dans le péché mortel? Parce que le péché mortel, c'est le refus de Dieu, Dieu qui est infini, puisqu'il est éternel. Il est tout-puissant. Donc j'ai malheur de commettre un péché mortel, je commets un malheur infini. Humainement parlant, pas de solution. Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a dû envoyer son fils. Le Père a dû envoyer son propre fils pour mourir sur la croix, précisément parce qu'il fallait un être infini pour rattraper et réparer un malheur infini. Seul Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Dieu, qui est donc infini, peut rattraper le malheur infini qu'est le péché. Vous voyez, comme toutes ces choses-là sont tellement importantes. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que puisque Dieu seul peut détruire en quelque sorte la dette que j'ai à son égard, je suis donc enchaîné à Dieu. Soit avec une chaîne d'amour. C'est le cas de quelqu'un qui vit en état de grâce. Soit je vais être enchaîné, si je refuse l'enchaînement à notre Seigneur Jésus-Christ, si je refuse cette chaîne à notre Seigneur Jésus-Christ, je vais être enchaîné à un autre maître. Et je vais avoir une chaîne qui va me lier au démon. Et si j'ai une chaîne qui me lie au démon, alors là, c'est plus la chaîne d'amour. C'est la chaîne de la crainte, la chaîne de la haine. On ne peut pas vivre sans avoir un maître. C'est impossible. Même les féministes sont obligées de reconnaître qu'elles doivent avoir un maître. Elles ne veulent pas entendre parler, mais au fond, elles le savent très bien. On ne peut pas vivre sans maître. Soit le maître, c'est un maître de haine, qui met la haine dans notre cœur, c'est le démon, soit notre maître sera notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout le travail de l'Église, le rôle de l'Église pendant des siècles et des siècles, a été d'aider l'homme à changer de maître. Vous étiez sous l'esclavage douloureux, pénible du démon, vous allez passer sous un autre esclavage volontaire cette fois-ci. Vous allez devenir fils de Dieu par adoption. Vous allez devoir donc reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme votre maître. Évidemment, à chaque fois que je commets une faute grave, eh bien, j'augmente cette dette que je dois à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais comment puis-je enlever la dette? Il y a plusieurs moyens. Ici, dans l'Évangile, il parlait de ce roi des rois, donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui pardonne la dette à son serviteur. Il y a des moyens extraordinaires d'enlever la dette, et il y a des moyens ordinaires. Tous ces moyens sont surnaturels. Pourquoi? Parce que la dette est provoquée par un acte surnaturel. Un péché, c'est un péché de manière surnaturelle contre l'auteur de la grâce et l'auteur de la nature, notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il y a des moyens extraordinaires d'enlever la dette. Premier moyen extraordinaire, c'est le baptême. Lorsque je baptise un adulte, non seulement tous les péchés sont effacés, mais également la dette complète. Les compteurs sont complètement remis à zéro par le baptême d'un adulte. Baptême d'un enfant, l'enfant n'a que le péché, d'un bébé, il n'y a que le péché originel. Évidemment, le compteur est aussi remis à zéro, mais là, il n'y a pas de peine du purgatoire qui rentre en cours parce que l'enfant n'a pas commis de péché actuel. Deuxième moyen extraordinaire de remettre la dette à zéro, c'est le martyr. Vous êtes dévoré par un lion ou par une panthère, par amour de bon Dieu, vous passez directement de l'estomac de la panthère au ciel. Là encore, le compteur est remis à zéro. Parce que c'est un acte de charité parfaite. Et il y a des moyens ordinaires. Alors quand je parle de moyens ordinaires, les gens me disent toujours, tout de suite, me lever, c'est la confession. C'est exact. La confession, le moyen ordinaire d'enlever une partie de la dette. Mais attention, la confession n'enlève pas toute la dette en général. La confession enlève le péché, mais pas la dette des péchés déjà pardonnés. Ce qu'on appelle les peines du purgatoire, j'ai déjà expliqué. Sauf confession assez extraordinaire où il y a un degré de regret, un degré de contrition de nos péchés qui dépasse la normale. C'est le cas, par exemple, des confessions générales de retraite, parce qu'on a le temps de préparer les gens à avoir cette contrition pendant 2 jours et demi. Donc, à ce moment-là, la dette est effacée. La confession efface le péché, mais pas toute la dette. Mais ce que les gens savent mal, c'est qu'il y a d'autres moyens ordinaires pour enlever cette dette ou la diminuer. Le deuxième moyen pour enlever la dette, et ça les gens n'y pensent pas assez, c'est la Sainte Messe. Lorsque j'assiste à la Sainte Messe, j'ai un moyen d'éliminer une partie, voire même la totalité, selon mon degré de charité, de la dette du péché, donc des peines du purgatoire. C'est ce qu'on appelle la fin propitiatoire de la messe. La messe, c'est un sacrifice. Le renouvellement non sanglant, sacrifice de calvaire. Qui est offert d'abord en adoration, bien sûr. Qu'on appelle la fin latrétique. Aussi en action de grâce, la fin eucharistique. Pour demander les grâces dont nous avons besoin, la fin impétratoire. Mais aussi et surtout, la fin propitiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire, la fin propitiatoire? Ça veut dire que la messe est un moyen de faire réparation pour nos péchés. Que veut dire le mot réparation? Justement, le mot réparation entraîne la destruction d'une partie de la dette. Donc si vous communiez en état de grâce, bien sûr, et avec un grand degré de charité, vous pouvez ôter une partie de votre dette du purgatoire. Et dans certains cas, encore une fois, on revient en retraite. C'est pour ça qu'au début des retraites, on demande aux gens de ne pas communier. Et le troisième jour de la retraite, c'est le milieu de la retraite, on fait ça à l'enfant prodigue. Un enfant prodigue, après les confessions générales de la retraite, chacun fait une confession privée, mais qui recouvre toute sa vie ou une partie de sa vie, ce qu'on appelle une confession générale. Et après, il y a le retour à la communion. Et là, c'est des communions très ferventes en général. Et bien, régulièrement, on le voit très bien nous en tant que prêtres, avec la grâce du bon Dieu, on peut espérer que ces confessions générales Et cette communion, la nouvelle première communion, efface complètement la dette. Et c'est pour ça qu'à la fin de la retraite, l'Église autorise les prêtres, le prédicateur, à donner une bénédiction spéciale qu'on appelle la bénédiction papale, avec une indulgence plénière qui efface toute la dette. C'est pour ça que les jeunes qui ont suivi la retraite, hein, ont suivi au moins le début de la retraite, les deux adolescents qui ont suivi la retraite, et j'aurais dit qu'ils peuvent partir après 2 jours et demi. Bon, si vous partez après 2 jours et demi, pas de bénédiction papale. Alors c'est embêtant. Donc vous pouvez rester si vous voulez. Je ne dis pas ça pour vous influencer. Vous êtes libre de partir, je vous ai dit. Les enfants, enfin les adolescents, qui sont encore trop jeunes pour suivre l'intégralité de la retraite, peuvent suivre la première partie, peuvent partir après la première partie s'ils le désirent. Nous verrons tout ça cette semaine. Et quand toutes ces choses sont importantes. Et il y a, donc ça c'est la deuxième façon, assister à la messe avec cette compréhension. La messe c'est quoi? C'est le renouvellement de la croix. C'est le même sang qui a été répandu sur la croix qui descend sur l'autel. Parce que le prêtre prononce les paroles de la Sainte Eucharistie sur le pain et ensuite sur le vin. Le pain, le vin disparaissent. La substance du pain disparaît, la substance du vin disparaît. Et nous avons à ce moment-là le corps, le sang, l'âme et la divinité entre le Seigneur Jésus-Christ sur l'autel. Donc le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité qui vont être immolées sur l'autel le vendredi saint il y a 2000 ans. Exactement le même. Et ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres moyens d'enlever cette dette ou une partie de la dette. Un autre moyen pour enlever la dette ou la diminuer au moins, c'est l'exercice des vertus. L'exercice des vertus, on n'y pense pas assez. Quand je pratique la vertu, eh bien, je diminue une partie de cette dette, voire même la totalité. Vous savez que toute la foi catholique est soutenue par 10 grandes vertus. 3 vertus théologales, 4 vertus cardinales et surtout 3 vertus morales, 3 vertus morales essentielles. Les 3 vertus théologales, foi, espérance, charité. Foi pourquoi ? Espérance pour prier, charité pour obéir à sa loi. Puis les 4 vertus cardinales, la prudence, la justice, la force, la tempérance. Et toute une série de vertus morales centrées sur 3 vertus essentielles, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Mais à chaque fois que je pratique ces vertus, en état de grâce, je gagne des mérites. Et ces mérites que j'accumule me permettent d'éliminer une partie de la dette du péché. Par exemple, si j'augmente la vertu de foi en moi, bon, la vertu de foi est une vertu infuse, mais c'est aussi une vertu acquise. On peut étudier sa foi. Quand j'étudie mon catéchisme, par exemple, je peux augmenter par l'acquisition d'une connaissance nouvelle, un catéchisme traditionnel, je peux augmenter l'amour du bon Dieu en moi, indirectement. Et donc, si je joins à la foi, la vertu théologale de foi, la vertu théologale de charité, je peux utiliser cette foi pour diminuer une partie de la dette de mes péchés. Pas simplement pour vous, pour moi, mais si j'ai la foi jointe à la charité, je vais pouvoir non seulement connaître mon catéchisme, mais l'aimer. Et si j'ai déjà un charge, je vais pouvoir enseigner le catéchisme à ceux dont j'ai la charge, et en plus, aider ceux dont j'ai la charge à aimer leur propre catéchisme. Pareil pour l'espérance. L'espérance nous permet de prier. Et donc, il faut que l'espérance soit jointe à la charité. Si l'espérance n'est pas jointe à la charité, on a en face de nous ce qu'on appelle une vertu informe. Il faut que la vertu soit formée par la vertu de charité. On dit que l'âme, c'est la forme du corps. Donc, ce qui rend une vertu vivante, c'est la charité. Et donc, la vertu théologale d'espérance va être vivifiée par la vertu de charité, ce qui va permettre à la vertu théologale d'espérance. Vous avez passé de la prière que vous faites tous les jours par la vertu d'espérance, si vous voulez la vertu d'espérance pour prier, vous allez passer à un degré supérieur, aimer prier. Et si vous faites cela, vous allez être capable d'enseigner à ceux dont vous avez la charge à prier et enseigner à ceux dont vous avez la charge à aimer prier. Et ça, ce n'est pas facile. C'est pareil aussi pour toutes les vertus cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Justement, ces vertus sont là pour nous aider à
sous la direction de la vertu prudence et du don de conseil, surtout du don de sagesse, à nous aider justement à remplir notre devoir d'État devant Dieu. Et quand toutes ces choses sont fondamentales. Et puis après, il y a les vertus qui correspondent aux vœux du prêtre, mais qui doivent être pratiquées aussi par les laïcs, chacun à son niveau. La vertu pauvreté, chasteté, l'obéissance. Par exemple, lorsque, avec la grâce du bon Dieu, je m'exerce à ne pas trop m'attacher à tout ce qui se voit, j'augmente en moi la vertu de pauvreté. Quand je travaille dans ma vie de tous les jours à ne pas m'attacher à tout ce qui touche, qu'on peut toucher, eh bien, j'augmente en moi la vertu de chasteté. Et quand je pratique toutes ces vertus, indirectement, je vais diminuer en moi la dette que je dois à l'égard du bon Dieu. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer, parce que sinon, je vais vous garder pour une demi-heure. Et l'Église nous enseigne aussi, c'est l'épître d'aujourd'hui, qu'il y a toute une série de moyens, d'autres moyens qui sont dans l'épître d'aujourd'hui. De quoi nous parle saint Paul ? C'est l'épître aux Éphésiens, il nous parle d'une armure. Parce qu'on sommes des soldats, le soldat il a une armure. L'armure du soldat, c'est quoi ? C'est la vertu théologale, c'est la foi, l'espérance et la charité. Puis il y a les reins saints. Les reins, cindre ses reins, ça veut dire quoi ? C'est la vertu de chasteté. Et la cuirasse. La cuirasse, c'est la justice. Les chaussures. Les chaussures représentent les bonnes œuvres que je dois pratiquer pour pouvoir justement aller au ciel. Le bouclier, c'est la foi. C'est ce que disent les pères de l'Église. Le casque, c'est le casque du salut. Et l'épée, c'est l'épée de la parole de Dieu. Vous voyez tous les moyens extraordinaires que nous donne la Sainte Église. Et tous ces moyens, qu'est-ce qu'a fait le démon ? Pour empêcher les gens d'aller au ciel, qu'est-ce que fait le démon ? Le démon détruit tous ses moyens. Bon, ce pauvre Jean de l'Église de Vatican II, ils n'ont plus tous ces moyens. Ils n'ont plus la confession, puisqu'ils n'y croient plus. Les prêtres modernes, quand on leur parle, c'est ahurissant. Mais j'ai des prêtres modernes qui me disent, même des braves prêtres, des prêtres un peu âgés, par exemple, qui ont encore une vague foi, mais ils disent, vous savez, je ne confesse plus du tout, plus de confession. Parfois, quelques confessions de vieilles dames, puis c'est tout. Je ne confesse plus. Donc imaginez les gens dans l'église de Vatican II qui n'ont plus de confession, qui n'ont plus de messe. Puisque la nouvelle messe, c'est du n'importe quoi, sauf une messe. Donc n'ayant plus de messe, ils n'ont plus l'application de la fin propitiatoire de la messe. Et les vertus ne les pratiquent plus. Comment est-ce qu'ils aillent au ciel ? Ça devient impossible. Mais vous, mes bien chers frères, vous avez accès à toutes ces choses-là. Vous avez accès à la messe, vous avez accès à la confession, vous avez accès à ces vertus. Pratiquez-les. Demandons donc au bon Dieu et à la très sainte Vierge Marie de nous donner toutes ces grâces. N'oubliez pas qu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie qu'elle nous obtienne toutes ces grâces pour que nous puissions utiliser toutes ces choses. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas prier sans une grâce obtenue par la Sainte Vierge. Hein, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces. La prière, c'est une grâce. Aimer prier, c'est une grâce. Transmettre l'amour de la prière à ses enfants, c'est une grâce. Sans la Sainte Vierge, c'est impossible. Se confesser, ça passe par la Sainte Vierge. Utiliser la fin propitiatoire de la messe, ça passe par la Sainte Vierge. Utiliser toutes ces vertus dont je viens de vous parler, ça passe par la Sainte Vierge. Donc demandons à être Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères. Demandons-lui pendant ce mois d'octobre, qui est son mois à elle, le mois consacré à la Sainte Vierge, hein, et deux mois consacrés à la Sainte Vierge. Mois de mai, mois de Marie, et le mois d'octobre, le mois du rosaire. N'oubliez pas que le rosaire est une cuirasse extraordinaire. Extraordinaire. On dit, et c'est vrai, je vais souvent citer cet exemple, que lorsque le démon veut entrer dans une âme, ou veut tenter une âme, première chose qu'il fait, il regarde par la fenêtre pour voir si c'est pas la Sainte Vierge à l'intérieur de l'âme. Et s'il voit que la Sainte Vierge est là, oulala, il s'en va en courant. Parce qu'il est, il sait que là, s'il cherche à rentrer avec la Sainte Vierge est dans l'âme, il va prendre des coups. Parce qu'elle est celle qui va lui écraser la tête. Donc, priez la Sainte Vierge. Surtout tous ceux, et nous sommes tous comme ça dans le monde moderne, tous ceux qui, nous sommes tous exposés à l'apostasie, nous sommes exposés à ces péchés contre la foi, contre l'espérance, contre la charité, contre la prudence, la justice, la force, la tempérance, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. De quoi nous avons besoin ? Dévotion à la Sainte Vierge. Cette dévotion à la Sainte Vierge m'ouvrira la porte du confessionnal. Cette dévotion à la Sainte Vierge m'ouvrira la porte de la Sainte Messe et de la fin propitiatoire de la Messe, pour que je puisse réparer mes péchés.
de dévotion à la Sainte Vierge ouvrira la porte de la pratique de toutes ces grandes vertus. Priez votre chapelet tous les jours, surtout pendant le mois d'octobre et même après. Je vous assure que quelqu'un qui garde son chapelet tous les jours est pratiquement sûr de son salut. C'est bienheureux Alain de la Roche qui l'a enseigné, un des premiers compagnons de Saint Dominique dans l'ordre dominicain. Alain de la Roche dit, et il n'est pas saint, il n'est pas canonisé, il est bienheureux. Il enseigne que toute personne qui dit son chapelet tous les jours est pratiquement sûre de son salut. Ça, je vais bien le croire. La Sainte Vierge Marie ne va pas oublier une personne qui dit son chapelet tous les jours. Vous avez des histoires extraordinaires dans la vie des saints, de gens qui ont été sauvés simplement parce qu'ils ont lu trois Je vous salue Marie avant de se coucher tous les soirs de leur vie. Ça a suffi pour les emmener au ciel. Donc ne vous découragez pas et priez la Sainte Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.